appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. La Commission électorale nationale indépendante a publié mardi 18 juillet 2017 à Kinshasa le calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 11 provinces. Accusés notamment de mauvaise gestion, certains de ces gouverneurs ont été déchus par leurs assemblées provinciales. D'autres par contre ont été rappelés à Kinshasa pour consultation et n'ont jamais regagné leur province. Certains observateurs estiment que cette initiative viole la loi, vu que certains gouverneurs concernés ont été réhabilités par décision de la Cour constitutionnelle. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 09 97 06 49 69 081 890 63 80 pour vos interventions en direct. Sylvain Matundu est à la mise en onde de cette émission réalisée par Tati Mapoukou et Pierrot Elameji vous la présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Pour certaines provinces, les gouverneurs qui ont été déchus par les assemblées provinciales ont été réhabilités au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour d'autres, comme le Kasaï central, où le gouverneur a été rappelé à Kinshasa sans une décision juridique. Alors voilà, dans cette configuration, la CENI a publié le calendrier pour l'élection de gouverneurs, vice-gouverneurs dans ces provinces. Plusieurs personnes estiment que ces débats aujourd'hui qui s'engagent et le mélange entre le fait juridique et les faits politiques. Quel est votre point de vue? C'est la question au centre de notre échange. Nous avons associé à cet échange Maître Donancien Okoko. Maître, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour tous les amis de Radio Capi.
Maître, c'est Pierrot. Alors, vous avez suivi déjà cet énoncé, vous avez eu l'occasion de suivre ce débat. Que pensez-vous aujourd'hui de ceux qui estiment que la politique ne peut pas dicter les juridiques dans les sens des prises, des décisions dans ces cas qui concernent l'élection de gouverneur ou vice-gouverneur?
Merci beaucoup. Parce que pour la parole que vous m'accordez et l'occasion que vous m'offrez pour nous entretenir dans cet échange citoyen avec tous les auditeurs de Radio Capi, il est anormal et même regrettable que notre pays puisse dérailler. Je dis dérailler parce que lorsque nous consultons les textes, la Constitution ne dit pas comment le fonction du gouverneur de province n'est pas en fait. Lorsque nous allons encore du côté de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, cette loi aussi demeure muette. Mais ce que nous savons, c'est que les gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Mais de quoi s'agit-il? Lorsque nous rentrons dans la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, à son article 13, on donne les conditions qui peuvent mettre fin au mandat d'un député provincial et que nous pouvons même faire la transposition en ce qui concerne le gouverneur. Entre autres, nous avons la fin du mandat, donc à l'expiration du mandat, le décès, la démission, l'acceptation d'une fonction incompatible, et j'en passe. Mais lorsque nous observons dans le cas de 11 provinces, il n'y a qu'une province que nous pouvons considérer à ce jour comme étant où il y a un vide juridique à la tête du gouvernorat. C'est la province, je crois, de Nord-Ubangi, où José Makila est gouverneur. Mais maintenant qu'il a accepté d'être ministre, donc c'est une fonction incompatible. C'est que de ce point de vue-là, il y a lieu qu'on puisse organiser l'élection du gouverneur dans sa province. Mais pour tous les autres cas-là, où est-ce qu'on peut, par quelle magie, on peut faire élire des autres gouverneurs alors qu'il n'y a pas vacance à la tête de ce gouvernorat? D'autre part, là où il y a eu des mentions, la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée pour certains et d'autres, les requêtes sont en cours. Comment voulez-vous qu'on puisse, pour tout toutes ces provinces-là, qu'on puisse organiser les élections d'autres gouverneurs à l'absence de l'expiration du mandat, à l'absence du décès, à l'absence de démission, à l'absence des fonctions incompatibles? Mais c'est anormal.
Alors, Maître Coco, quand on regarde par exemple les cas de la province du Haut-Katanga, rappelons que le gouverneur a été réhabilité par la Cour constitutionnelle et c'est après cet arrêt de la Cour constitutionnelle que son parti, le PPRD, a retiré la confiance qu'il avait placée au gouverneur et après le ministère de l'Intérieur saisit la CENI pour organiser les élections. Mais si nous voyons l'article 115 fonctionnement de la Cour constitutionnelle, on dit bien à la requête du ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision, même coulée en force des choses jugées, rendues en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d'un tel acte. Je m'intéresse bien sûr à la dernière phrase. La décision rendue dans ces cas n'est susceptible d'aucun recours. On a vu quand même qu'il y a des arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont été respectés lors de l'instauration de mesures spéciales pour diriger les provinces avec les commissaires spéciaux. On a vu aussi les cas lors de la non-tenue des élections pour la possibilité de garder les chefs de l'État à la tête du pays. Et d'aucuns estiment que le fait que des gouverneurs soient réhabilités par la Cour constitutionnelle et que sur les plans politiques on les empêche d'exercer ou qu'on organise l'élection pour élire d'autres gouverneurs, carrément, on s'engage dans une voie d'affaiblissement même de la loi ou même du travail de la Cour constitutionnelle.
Oui, merci beaucoup. Mais je trouve, c'est ça que j'ai dit que le pays a déraillé. Notre pays a déraillé. Parce que c'est anormal. Même lorsque vous évoquez le cas de commissaires spéciaux, mais quand vous analysez l'arrêt de la Cour à cette époque-là, la Cour n'a jamais dit que le nom est de commissaires spéciaux. La Cour a joint au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles transitoires pour assurer la continuité de l'État. Mais il n'a pas dit que le président... D'ailleurs, dans l'arrêt-là, on n'a même nulle part où on a parlé du président. On a parlé du gouvernement. Mais c'est curieux que c'est le président qui a pris des ordonnances nommant les commissaires spéciaux. Revenons au cas actuel. Mais quand vous lisez la Constitution, on nous dit que les décisions, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont opposables à tous et exécutoires. Mais on commence avec qui? Avec le pouvoir public. C'est le pouvoir public qui doit montrer l'exemple que ces arrêts-là doivent être exécutés. Mais c'est curieux que c'est le même pouvoir public qui s'oppose à ces arrêts. Donc vous voyez qu'il y a deux poids, deux mesures. Lorsque l'arrêt est favorable au gouvernant, il s'empresse pour nous dire que non, c'est exécutoire, c'est tout ça. Mais lorsqu'on trouve que ce n'est pas favorable, on s'y met. Et d'ailleurs, dans les deux cas, ce n'est même pas que c'est défavorable à eux. Parce que ce gouverneur-là, c'est eux qui étaient des commissaires spéciaux, nommés par le pouvoir public. C'est eux qui les ont présentés dans leurs provinces respectives. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment, surtout les cas que vous venez d'expliquer de Jean-Claude Kazidi. Est-ce que le parti politique, comme un fait privé, peut-il avoir de l'ascendance sur la Cour constitutionnelle? Dès lors que la Cour a tranché, vous vous dites non, nous, comme parti politique, nous avons retiré confiance. Mais en retirant cette confiance-là, comment vous pouvez faire tomber ce gouverneur-là parce que vous lui avez tiré la confiance? Or, pour quitter, il faut qu'il y ait fait du terme du mandat, décès, démission ou cas d'incompatibilité. Lorsqu'on ne trouve pas toutes ces conditions-là, comment on peut démettre le gouverneur et organiser les élections. Nous comprendrons. Nous savons que le gouverneur de province a double casquette. Il est à la fois autorité régionale et il est à la fois aussi autorité déconcentrée. Quand vous lisez l'article, je crois, 67, ici ma mémoire ne me trahit pas, de la loi portant principes fondamentaux à la libre administration des provinces, là vous trouverez que, je crois, article 63, que le gouverneur représente le pouvoir central en province. Et que dans l'article 67, on dit bien que lorsque, à l'exercice de ses fonctions, si le gouverneur arriverait à commettre une faute grave, le pouvoir central n'a même pas le droit de le démettre. Le pouvoir central ne peut que consulter l'Assemblée provinciale pour solliciter la motion de défiance pour faire partir le gouverneur. Mais dans les cas sous examen, mon frère, mon cher ami, comment on peut accepter ça? Donc vous ne voyez pas que nous sommes allés à la dérive.
On va revenir à vous. Voilà, c'est l'inquiétude même aussi pour le Kasaï central, parce qu'après les événements malheureux qui sont arrivés dans cette province, le gouverneur a été rappelé à Kinshasa. La province est gérée par le vice-gouverneur, mais il n'y a pas un acte juridique aujourd'hui qui indique qu'il y a vacance à la tête de la province du Kasaï central. Comment peut-on convoquer l'élection du gouverneur? Sylvain, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour, merci d'avoir rejoint le CDBAT. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Monsieur Pirot. Bonjour à votre invité qui est aussi mon confrère. Merci pour la parole que vous m'accordez sur votre radio et à tous vos auditeurs. Bonjour.
On vous écoute.
Je voudrais dire ceci, Monsieur Pirot. Ma foi, je pense que il y a péril en la demeure. J'ai toujours dit, nous devons revoir notre façon de travailler. La Constitution est bâtie en brèche. Au-delà de toutes les considérations que votre invité venait de balayer, de la loi sur l'administration, sur la libre administration de la province, moi je me focalise sur la Constitution. Pour ce qui est par exemple du gouverneur du Haut-Katanga et celui de la Chuapa. L'article 151 de la Constitution dit que le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de la justice. Ça, c'est l'article 151. Nous allons à l'article 168 qui dit « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Mais le deux gouverneurs que j'ai dit de la Chuapa et du Haut-Katanga ont été réhabilités par la Cour. Mais aujourd'hui, chez les gouvernements, donc par l'entreprise du ministre de l'Intérieur, en concertation avec la CENI, qui dit on devra organiser l'élection des gouverneurs dans cette province, dans ces deux provinces. Mais ma foi, j'ai dit c'est sur base de quoi? J'ai souvent dit que la politique ne doit pas prendre le dessus sur le droit. On pouvait donner une connotation juridique à des faits politiques. Il faut les habiller en droit. Je pense que dans cette circonstance-ci, on devrait vraiment avoir nécessité d'organiser les élections dans ces deux provinces parce que ces gouverneurs étaient réhabilités. Qu'est-ce que le composant qui ont présenté ces candidats pour être gouverneur devrait faire? Politiquement, ils devaient travailler en concertation avec leurs députés provinciaux, par exemple, et demander à ce que ceux-là puissent renouveler d'autres motions pour être examinées. Et dans ce cadre-là, les gouverneurs pouvaient partir. Mais dans ce sens-ci, lorsqu'il a été question de l'interprétation de l'article 70, lorsque l'opposition s'opposait à cela, la majorité a dit, les arrêts de la Cour sont exécutoires et sont opposables. Maintenant, cette fois-ci, je pense que ça devient inopposable. C'est malheureux. Quand nous revenons dans la situation, par exemple, de la province du Kwilu, avec le gouverneur qui venait d'être déchu, Monsieur Pierrot, l'article 198 de la Constitution est tellement clair. En son alinéa 8e, qu'est-ce qu'il dit? Les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale. Et au dernier alinéa de ce même article 198, il est dit « Lorsqu'une crise politique grave persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions les gouverneurs d'une province. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l'élection d'un nouveau gouverneur. » Et quand nous devons aller aux articles 146 et 147 de cette même constitution, M. Pirot, ces articles disent que pour qu'un gouverneur puisse partir, il faut une motion qui soit débattue. Les dépôts formels ne suffisent pas, il faut que la motion soit débattue. Mais ma foi, je vois ici, on organise les élections, c'est sur base de quoi? Et j'ai même entendu, il y a 2-3 jours, un vice-président de l'Assemblée provinciale du Kouilou, M. Kassende, tira un communiqué pour dire que jusqu'à ce que les élections soient organisées au Kouilou, c'est le vice-gouverneur qui engage le gouvernement provincial, ce n'est plus le gouverneur. Ma foi, nous sommes où?
Alors là on comprend, Sylvain, que
c'est... Attendez, M.
Oui,
Pirot.
Allez-y rapidement, quand parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens sur les standards, oui.
Peut-être que le gouverneur pouvait partir, mais laisser les députés libres travailler. Je crois que il y a un député du Kwango qui a déploré cette situation-là sur les ondes de votre radio. Lorsqu'il devrait examiner une motion contre le gouverneur du Kwango, c'est le ministre de l'Intérieur qui appelle pour dire n'examinez pas cette motion. Mais on devrait organiser les élections dans quel sens? Aussi longtemps
oui, voilà. Il y a eu des problèmes comme
la
ça,
motion n'a pas été débattue.
Aussi, où il y a pas une les temps où il fallait examiner la motion, le gouverneur rappelé à Kinshasa, voilà un peu dans cette configuration. Vous estimez que c'est une question de revenir complètement à la loi parce qu'il ne faudrait pas que le politique prenne les dessus sur la loi. Merci beaucoup Sylvain Maître Likonza, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Alors, en bref, on a suivi les uns et les autres, on estime que la loi est claire parce que Sylvain, lui, estime que la loi est claire, mais alors il y a... on entre un peu dans cette guerre créée aussi par des considérations politiques. Mais alors, comment faudrait-il, parce qu'il faut à un certain moment que la Cour constitutionnelle soit sauvée, qu'elle ait du crédit, parce que si déjà dans le débat on estime que les arrêts n'ont pas été opposables pour certaines décisions, complètement, il y a ceux qui risquent de pouvoir négliger le travail ou bien les arrêts de la Cour constitutionnelle. Alors, à quel niveau les politiques doivent-ils se ressaisir, Sylvain, Maître Likonza dans ces débats?
Bon, et l'invité et Sylvain, chacun a relevé certains articles de la Constitution et de la loi, mais tous les deux n'ont pas relevé l'article qui donne le pouvoir à la Cour constitutionnelle d'examiner une motion de défiance. Et ils n'ont pas non plus relevé un article qui dit que la Cour constitutionnelle a le pouvoir de réhabiliter un gouverneur déchu par une motion. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un vide juridique sur ce point-là. Bon, la Cour a déjà rendu les arrêts déclarant inconstitutionnel des motions de défiance. Mais cet arrêt-là n'a pas pour effet de réhabiliter automatiquement un gouverneur déchu. Certainement, les arrêts de la Cour constitutionnelle sous-tendent une annulation des motions. Mais comment quelqu'un qui a laissé son poste de 6 mois durant peut être réhabilité dans le même poste? Ce n'est pas du tic au tac. Donc il doit y avoir une procédure après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est que les gens ne veulent pas dire bénéficiaire des arrêts. C'est au bénéficiaire des arrêts de chercher à connaître cette procédure-là. Et dans cette procédure, je pense que le gouvernement a sa part. C'est pourquoi, ce qui le concerne, aujourd'hui on parle des retraits de confiance à certains gouverneurs. Et même ceux-là qui ont été déchus et aujourd'hui bénéficiaires des arrêts de la Cour constitutionnelle et d'autres qui n'ont pas été déchus, tous ont perdu la confiance du gouvernement parce que quand le président de la République retire la confiance, c'est déjà le gouvernement qui a retiré la confiance à ses gouverneurs. Et aujourd'hui, le pouvoir est exercé par une famille politique, majorité présidentielle. Un gouverneur ne peut pas gérer une province tant qu'il ne bénéficie pas de la confiance de celui qui gère la République. Nous devons dire les choses clairement et être juridiquement rigoureux à ce sujet. Alors, quand il y a un vide juridique où la loi ne dit rien, il y a maintenant ce qu'on appelle règlement, le règlement, les actes réglementaires. C'est le pouvoir exécutif qui doit agir. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de chercher les voies et moyens pour combler ces vides à sa manière, soit par les arrêtés, soit par les ordonnances, mais aujourd'hui on parle de l'élection des gouverneurs.
Oui, alors Maître Likonza, si on reste dans votre pensée, on consulte, on a saisi la Cour constitutionnelle parce qu'on estime que la procédure, l'acte administratif, la procédure qui a été engagée, elle est contre la Constitution. Et si la Cour estime que cet acte, effectivement, est inconstitutionnel, et cela veut dire que cet acte est de nul et nul effet, comme vous le dites en droit. Mais est-ce que, si l'acte a été déjà déclaré nul et de nul effet, est-ce qu'au niveau du pouvoir politique, le fait qu'on puisse ne pas considérer cet acte, qu'on prenne une décision en dehors de cet acte, est-ce que ce n'est pas ça le vrai débat de la fragilisation de la Cour constitutionnelle et des arrêts de la Cour constitutionnelle?
Non, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a violé ces arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est au bénéficiaire des arrêts de chercher à connaître la procédure pour leur réhabilitation ou non. Ce n'est pas accuser le gouvernement d'avoir violé les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ça la question. La question de chercher, c'est de chercher à connaître quelle est la procédure pour être réhabilité ou non.
Mais en attendant, Maître Likonza, le gouvernement instruit la CENI d'organiser les élections. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a été réhabilité par la Cour constitutionnelle s'engage dans une démarche à savoir comment être réhabilité et au même moment, son poste est déjà mis sur la table pour que l'élection soit organisée? C'est une façon de lui montrer que non, monsieur, tu ne peux plus occuper ces postes, si on peut réfléchir ainsi.
Mais j'insiste sur la procédure de réhabilitation. Lorsqu'on ne connaît pas la procédure de réhabilitation, le gouvernement constate qu'il y a vacance des postes. Et donc, on peut organiser l'élection jusqu'à ce que les bénéficiaires de l'arrêt de la Cour constitutionnelle puissent connaître la procédure par rapport à sa réhabilitation. Jusqu'à aujourd'hui, ces postes-là sont vides, sont vacants.
Voilà, merci beaucoup, Maître Likonza. Mais rappelons quand même qu'il y a des gouverneurs qui ont, on a fait le débat dans Parole aux auditeurs, c'est qu'ils voudraient prendre les avions pour rentrer dans leur province après la réhabilitation par la Cour constitutionnelle, qu'ils ont été empêchés, on a fait même le débat autour de ça. Mais vous estimez que la question revient à ceux qui ont été réhabilités de pouvoir trouver des procédures pour leur réhabilitation. Est-ce que Timothée, vous êtes à Kananga, avez-vous la même impression que Maître Likonza dans ces débats autour de cette élection qui doit être organisée dans ces 11 provinces? Timothée, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment avec indignation que nous avons accueilli cette nouvelle de la CENI pour convoquer les élections ici chez nous au Kassai central, alors que nous savons que le gouverneur tente depuis qu'il est à la tête du pays et puis depuis qu'il est parti à Kinshasa, il n'a jamais été frappé par aucune motion ni par quoi que ce soit pour que les élections soient organisées chez nous. Alors, demain, ici au Kassai central, nous pourrons avoir combien de gouverneurs pour céder les chantiers que nous venons de passer. C'est parce que tout le temps, il y a toujours les remplacements des gouverneurs. Alors, tous ces gouverneurs qui sont remplacés, ils laissent toujours leur projet en cours. Or, nous savons que construire sans terminer, c'est détruire. Mais ils laissent toujours leur projet en cours, les chantiers, ça devient toujours les chantiers éternels. Et ici, chez nous, au Kassai central, en tout cas, nous allons vous dire que nous n'avons pas besoin d'avoir un autre gouverneur. Nous voulons assez que le gouverneur qui a été appelé à Kinshasa, nous ne savons pas pour quel motif, qu'il puisse rejoindre sa province du Kassai central afin de continuer avec le projet qu'il avait déjà entamé. Je pense que nous n'avons pas pour l'instant les besoins d'avoir un autre gouverneur ici, mais nous voulons assez que celui qui est déjà là, il doit continuer avec ses projets qu'il avait déjà entamé, afin que nous puissions quand même avoir quelque chose, ou bien que notre province soit relâchée. C'est parce que aujourd'hui nous devenons une province la plus pauvre, c'est parce qu'il n'y a toujours pas la stabilité au sommet de la province. Il y a toujours de ces remplacements-là. Dans des législatives, je crois, on a eu à peu près 6 gouverneurs ou bien 5 gouverneurs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres provinces. Nous voulons assez que quand un bon retourne dans sa province et continue avec les projets qu'il avait déjà engagés. S'il y a élection, qu'on organise, oui.
Merci, merci beaucoup. Merci Timothée, parce que vous avez évoqué les cas de changement à la tête de la province. Rappelons quand même qu'il y a aussi la province du Sud Kivu qui a connu autant de changements de gouverneur. Il y a l'ancienne province de l'Équateur dans l'ancienne configuration qui a connu aussi autant de gouverneurs. Et vous, vous estimez que le cas du Kasaï central, le gouverneur n'a pas démissionné, il a été rappelé à Kinshasa, il n'y a pas eu une motion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision juridique qui indique clairement que le gouverneur ne peut pas revenir pour que l'élection soit organisée. Merci beaucoup, Timothée. Nous avons Eustache qui est à Matadi, dans la province du Congo central. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà. Et quand on a lu votre commentaire sur la page Facebook, on pourrait dire là que les débats maintenant tournent autour de la CENI. Il y en a qui estiment que la CENI ne veut pas le faire. Est-ce que la CENI devrait-elle automatiquement répondre à ce qui a été demandé par les gouvernements, où la CENI était-elle dans la liberté de pouvoir juger les faits et où soit aussi recourir à la Cour constitutionnelle pour savoir si elle pourrait organiser les élections dans ces provinces où les gouverneurs ont été réhabilités ou soit n'ont pas eu un acte juridique et indiquant l'absence de l'autorité au niveau de la province?
Merci, longue question mais facile à comprendre. La commission électorale, elle est dite commission électorale nationale indépendante. Si elle commence à obéir aux ordres de quelqu'un, elle est devenue commission électorale nationale dépendante. Ça, c'est de un. De deux, quand la CENI se trouve devant des blocages, elle a toujours fait recours à la Cour constitutionnelle. Elle est allée avaliser l'arrêt sur le maintien du chef de l'État et non organisation des élections en 2016. À la Cour constitutionnelle. Mais pour cette situation, tellement que les rapporteurs lui-même a confirmé qu'ils ont obéi aux ordres du vice-premier ministre, c'est qu'on comprend que la Commission électorale nationale indépendante est entrée dans la violation, comme le gouvernement, de la loi en vigueur en cette matière. Ce que nous pouvons demander à notre Commission électorale nationale indépendante, c'est de se ressaisir et d'annuler ce calendrier, et d'aller d'abord consulter la loi à propos. Mais est-il que le gouvernement aurait fait ça pour les permettre de gagner du temps? Pourquoi? Parce que quand les élections ne seront pas organisées et que la CENI va se retrouver dans le vice de procédure et la violation flagrante, parce que vous avez bien dit, il y a des gouverneurs qui n'ont pas démissionné, il y a des gouverneurs qui sont en train de démissionner après l'élaboration du calendrier, on comprend partout là-bas qu'il y a des manœuvres entre les gouvernements et la CENI. Et c'est comme ça que les gens même de l'opposition disent que la commission électorale n'est plus indépendante, la commission électorale, elle est devenue kabyliste. Comprenez par là. Je reviens à la situation des arrêts de la Cour constitutionnelle. Nous disons bien, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et ne sont susceptibles d'aucun recours. Pourquoi la situation des cas élevés ne peut pas servir d'exemple à la même situation, la situation du président de la République qui venait de se dérouler il n'y a pas longtemps? Et entre nous soit dit, la commission, les gouverneurs ne sont pas les agents du gouvernement national. Il peut avoir un gouvernement majorité présidentielle et un gouvernement provincial qui peut évoluer de l'opposition. On ne doit pas nous tromper et nous faire avaliser ici que tous les gouvernements provinciaux doivent être de la majorité présidentielle. C'est faux et archi-faux, et ce n'est pas réglementaire. Et dans notre constitution, vous ne trouverez pas ça nulle part. Et sinon, si les gouvernements provinciaux commencent à dépendre des humeurs du gouvernement national, nous avons tout ce que nous avons. On est en train de torpiller la territoriale et la République ne va plus en avant. On est en train de stationner et de stopper. Vous avez suivi mon confrère de Kananga qui réclame son gouverneur. Et d'autres sont en train de réclamer. Marcelin Tshishambo est venu démissionner à Kinshasa. On est venu attendre qu'il a démissionné après l'élaboration du calendrier, la publication. On comprenait par tout ça qu'il y a quelques manœuvres qui sont en train de se faire. Et c'est le gouvernement qui en est l'auteur. Parce que la CENI a cité le vice-premier ministre.
Merci beaucoup. La CENI aurait mieux fait de consulter la Cour constitutionnelle autour de cette question. 081-890-63-80, 09-97-06-49-69 pour intervenir en direct. Évariste, vous gardez la ligne, on va vous accorder la parole tout juste après notre invité.
Écho de développement. Écho de développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences et les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète. C'est dans Écho de développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion le mardi à 9h15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Maître Donatien Onokoko, vous avez suivi nos auditeurs. Il se dégage deux préoccupations. D'abord, notre ami Likonza qui estime que la Cour ne réhabilite pas. La Cour déclare la décision inconstitutionnelle, mais elle ne réhabilite pas les gouverneurs. Et d'un côté, notre ami Estache qui pense que pourquoi la CENI n'a pas recouru à la Cour constitutionnelle pour savoir si son calendrier ou sur ce que le gouvernement lui a demandé est conforme aux lois de la République.
Merci beaucoup, Pierrot. J'ai suivi les deux préoccupations, mais à suivre tous les intervenants. Donc, il n'y a que le confrère Likonza que je peux répondre pour l'instant. Il s'est posé la question, il m'a dit d'où est-ce que la Cour tire telle compétence pour connaître des motions. Moi, je crois que j'avais déjà intervenu à votre radio pour dire cette question-là. Pour dire que les actes d'assemblée sont insusceptibles d'être connus par la Cour constitutionnelle. Mais il s'est fait que l'ancienne Cour suprême de justice avait ouvert une brèche dans l'affaire qui a opposé l'Assemblée provinciale de Sud Kivu contre le gouverneur Chibalonza. Et puis, il s'en est suivi l'affaire de Trésor Kapuku, il y a eu l'affaire de Richard Ndabou, il y a eu l'affaire du président Singhi, et la chaîne s'en est suivie. Mais dans tous ces actes-là, la Cour n'examine que la protection du droit de la défense. Donc ça, c'était, je lui dis ça, il ne peut pas se poser cette question-là parce que c'est une question que nous avions déjà dénoncée, que la Cour n'est pas compétente pour connaître des actes d'assemblée. Il a encore argumenté en disant c'est normal que le gouvernement intervienne parce qu'il y a des gouverneurs qui ont accumulé 6 mois d'absence. Non. Lorsque le pouvoir retient ce gouverneur de force ici à Kinshasa, qui ne rentre pas dans leur province, par quelle magie pouvait-il rentrer et travailler? L'intervenant Timothée de Kananga vous a dit que son gouverneur a été retenu ici. Il y a eu un gouverneur, une dame, je crois, de Sud Ubangi ou je ne sais, de l'Équateur, qui a été bloqué ici. Et tous ces gouverneurs-là sont bloqués. Comment il peut leur imputer l'absence dans leur juridiction? Je crois que ça n'est pas de la faute de gouverneur. Il a parlé aussi que c'est normal que le gouvernement puisse retirer la confiance à ce gouverneur-là. Non! Les gouverneurs ont été élus par les assemblées provinciales. Et donc, c'est l'Assemblée provinciale qui peut retirer la confiance et non le gouvernement. Dans quel état le confrère veut nous amener? Il a dit qu'il y a vide juridique. Nous avons déjà dit au départ, nous avons démontré qu'il n'y a pas de vide juridique à part la province de José Makila, parce que José Makila a accepté une fonction incompatible. Donc, l'élection peut se dérouler dans cette province-là. Dans les autres provinces, c'est le défi que le ministre, le vice-premier ministre est en train de faire. Ça, c'est un défi, régné par défi. Il n'y a pas de procédure par rapport à la Constitution, par rapport à la loi, qui donne la compétence au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de faire ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est géré par défi. Et vous avez constaté que depuis un certain temps, tous les gouverneurs, tout le ministre de l'Intérieur font des histoires comme ils veulent. Vous vous rappellerez que en son temps, le gouverneur Bouchard avait suspendu les assemblées provinciales. Or, sans pouvoir, sans qu'un seul texte de la République puisse prévoir cette compétence-là. Le confrère dit encore qu'il a fallu que ce gouverneur-là
cherche à être réhabilité. Comment on va chercher à être réhabilité? Dès lors que les arrêts de la Cour sont exécutoires, insusceptibles de tout appel, dès lors que la Cour s'est prononcée, il n'est que normal que ceux qui ont fait des motions sachent déjà que leur motion tombe dans l'eau par rapport à la position de la Cour constitutionnelle et permettre à ce gouverneur de rentrer. Si le pouvoir n'a pas empêché à ce gouverneur de rentrer, ce gouverneur-là serait en fonction. Pourquoi dire aujourd'hui qu'ils doivent chercher quelqu'un qui doit le réhabiliter? Il n'y en a pas. En ce qui concerne Stache de... Je ne sais pas si j'ai massacré son nom.
Stache de Matadi. Oui,
oui. Je ne crois pas que la CENI, pour agir, doit rentrer à la Cour constitutionnelle pour demander si l'acte que le gouvernement lui l'amène est constitutionnel ou non. Non, je ne crois pas. La CENI ne doit pas se comporter de cette façon-là. La CENI reçoit lorsqu'on lui dit qu'il y a vacances. Et il est normal que lorsque c'est le ministre de l'Intérieur qui arrive devant la CENI pour lui dire qu'il y a vacances, la CENI doit accepter qu'il y a vacances. Donc il n'appartient pas à la CENI d'aller vers la Cour constitutionnelle pour lui demander la conformité de l'organisation de ces élections. Encore que cette compétence-là n'est pas de la Cour constitutionnelle pour connaître les actes réglementaires que le gouvernement soumet à la CENI. Donc je crois que...
Merci beaucoup, maître. Voilà, merci beaucoup, oui. Maître Okoko. Nous allons prendre Alain Evariste qui est en Bandaka. Bonjour, Alain. Alain Evariste, bonjour.
Bonjour à l'invité et aux millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde.
Mm-hmm. On vous écoute.
Monsieur le journaliste, moi je pense que le vice-premier ministre de l'Intérieur, en connivence avec le président de la centrale électorale, veulent détourner l'attention des Congolais pour ce qui est de l'organisation du scrutin présidentiel en convoquant les scrutins de gouverneurs et vice-gouverneurs en violation de la loi fondamentale. Et c'est là sa disposition pertinente, l'article 168, tel que mes prédécesseurs l'ont déjà évoqué et l'ont déjà lu. On réhabilita. Monsieur le journaliste, prenons le cas de la province de l'Équateur, la province de la Chuapa et la province de la Mongala du Haut-Katanga. Ces gouverneurs ont été déchus par les assemblées provinciales et ils ont usé de leurs droits constitutionnels en saisissant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité des motions prises par les assemblées provinciales. Laquelle Cour les a réhabilités. Moi, je pense que Maître Likonza, lorsqu'il demande la procédure pour l'installation ou la reprise de ces gouverneurs dans leur poste, mais la procédure est simple, monsieur le journaliste. Lorsque la Cour rend ses arrêts, c'est maintenant au ministre de l'Intérieur de notifier le gouverneur et c'est au procureur général de la République de les exécuter, monsieur le journaliste. Il est évident aujourd'hui que les Congolais, l'attention du peuple congolais tourne pour l'organisation du scrutin présidentiel à la fin de ce mandat. Mais ce que la CENI, les calendriers publiés par la CENI en connivence avec le ministre de l'Intérieur, je pense qu'ils veulent détourner l'attention des Congolais pour, puisqu'aujourd'hui l'actualité de ces deux semaines, c'est sur base de cette décision, de la publication de ce calendrier.
Voilà, vous estimez, Evariste, que vu que tout le monde se focalise sur l'élection présidentielle, c'est les débats, c'est l'actualité, c'est la grande préoccupation, c'était pas important aujourd'hui de pouvoir publier un calendrier pour l'élection de gouverneur, d'autant plus que la question a été réglée pour d'autres provinces par la Cour constitutionnelle. Et vous estimez qu'on ne pouvait que notifier, les assemblées provinciales ne pouvaient que s'incliner. Et aujourd'hui, toute l'attention est concentrée sur l'élection présidentielle et ce calendrier qui est attendu. Merci beaucoup, Alain Evariste. Gervais, vous êtes à Calémie. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à monsieur Adrien qui me suit en ce moment à partir de Kinshasa.
Voilà, on vous écoute, Gervais.
Oui, ma grande préoccupation par rapport au sujet du jour, quoi que nous tournions sur des points un peu divergents, je trouve qu'il y a d'abord d'avance manque d'esprit managérial de la part de différents gouverneurs qui ont été déchus. Parce que si vous revenez à l'article 3 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée en ces jours, la Constitution a reconnu un peu le pouvoir de la libre administration et de la gestion, tant financière, humaine et autres. Mais quand, en ce qui concerne un peu les élections, il est très difficile parce que même le calendrier, même s'il a été publié, c'est trop fort. Parce que même le durée, ça c'est le durée, hein, les mandats de nos gouverneurs, je ne sais pas, leur mandat n'est pas. Il y a aussi des tiraillements par rapport à certains gouverneurs qui n'ont pas été, donc, qui n'ont pas déposé leur démission. Comment sera leur situation aussi? Mais la grande question que je me pose, aujourd'hui, il y a certains gouverneurs qui ont été réhabilités, donc, disons, qui ont réussi un peu, qui ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle. Parce que vous savez, même dans la matière électorale, c'est l'organe qui est vraiment compétent en la matière, c'est la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Mais avec les décisions rendues, ou soit les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle qui sont aussi inattaquables quelque part, mais pourquoi ne pas trouver des solutions palliatives à la réhabilitation au lieu de procéder peut-être aux élections qui pourront aussi perturber? Parce que des fois, il peut arriver dans une autre province, il y a éclatement, mais comment sera maintenant la suite pour les autres provinces? Aujourd'hui, nous attendons les élections provinces précitées. Maintenant, quand viendra-t-il pour les autres provinces où il y aura maintenant des troubles dans les jours à venir? Mieux serait de pouvoir trouver une solution, mais la solution, parce qu'il y a des soulèvements peut-être au Katanga, donc, dans la province du Katanga avec des troubles. Comment seront organisées ces élections-là? Donc ces élections ne seront pas réalisées.
Alors si on écoute Gervais, c'est que la décision du ministère de l'Intérieur de demander à la CENI d'organiser l'élection de ses gouverneurs dans cette configuration, vous estimez effectivement que ça jette plus de les gens sont plus perplexes, plus de confusion. Alors il faudrait à un certain moment que les jeux soient clarifiés pour que enfin ces provinces se ressaisissent, même aussi que le côté juridique de la chose soit assez respecté. C'est pour cela on accorde la parole à Félicien. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Oui Gervais, vous allez compléter quelque chose pour 10 secondes rapidement qu'on donne la parole à Félicien.
Oui, c'est ça, parce que donc sur l'aspect juridique, nous aimerions bien respecter les lois de la République et que les lois s'intéressent par rapport à aux différentes décisions prises, parce que donc, nous devons nécessairement aussi donner de l'avantage, soit de l'ampleur à notre cour constitutionnelle qui est l'organe compétent. Il faut toutefois respecter certains arrêts qui sont rendus par elle.
Par la cour. Merci beaucoup, Gervais. Il faut donner de l'importance à la cour constitutionnelle. Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour. Félicien, bonjour. Bon, on a des petits soucis des lignes avec Félicien. Quelques messages déposés sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Thierry Lubungu, tout ça, c'est parce que ces derniers, ces gouverneurs ont été désignés dès le départ. Avant qu'ils soient gouverneurs, ils n'ont pas été élus par les députés provinciaux, mais imposés par les pouvoirs, le gouvernement central. Et c'est les mêmes pouvoirs qui décident quand il faudrait les enlever. Encore grave, c'est celui du Haut-Katanga a été réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais refusé par son parti. Voilà dans quelle confusion on se retrouve. Isaac Bamporiki, plus de doute désormais, le pouvoir exécutif vient de confirmer lui-même ses dons 1001. De ses détracteurs l'ont toujours accusé, à savoir de se mettre au-dessus du pouvoir législatif. Il démontre qu'il est tellement le maître absolu de toutes les institutions. Fikiri Chomba, cette décision vient encore une fois mettre en cause l'indépendance de la CENI. Je me demande si la CENI aussi reconnaît son indépendance. Comment une commission indépendante peut accepter les injonctions du ministère de l'Intérieur alors qu'on est dans une situation de confusion pour certaines provinces? Alors, merci Rodriguez Basanga de Mbandaka, lui, il pense que là, c'est un problème de la violation tout simplement de la loi. C'est aussi un manquement pour le pouvoir judiciaire. Et Félicien, je crois maintenant, c'est bien, on est ensemble. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, mais moi je pense que là, la majorité présidentielle est en train de plonger le peuple dans une distorsion, comme ils en ont l'habitude. Et il n'y a rien de sérieux dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils l'ont fait pour faire retarder les élections et à multiplier, à précipiter plutôt le démembrement. Et ils sont en train de le faire. Ils l'ont fait aussi pour la nomination des commissaires, excusez-moi, des commissaires des provinciaux ou quoi. Et aujourd'hui, pendant que nous attendons les élections en décembre, ils sont en train encore de multiplier les distractions. Comment comprenez-vous que pour la même Cour suprême et plutôt Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour sont valables et inattaquables et opposables à tous quand il s'agit de prolonger le mandat du président de la République. Mais quand c'est la même Cour réhabilite les gouverneurs, bon, ces arrêts sont sans valeur, même les partis politiques peuvent fouler ça au pied. Et que disent les membres de la Cour, ils sont à l'aise avec ça ou comment? Moi, je pense que notre pays est entré dans une aventure sans nom et sans lendemain, et à cause d'un groupe de politiciens opportunistes qui ont choisi de privilégier leurs intérêts personnels, l'intérêt de leur ventre, au détriment de l'avenir de tout un peuple, de toute une nation. Je pense que la crise économique très accentuée que connaît notre pays a engendré une nouvelle classe politique. J'ai dit bien nouvelle, j'ai dit pas une jeune classe. Parce que dans cette classe politique que nous avons aujourd'hui, vous trouvez aussi de vieux depuis 80 ans qui ne sont pas prêts à abandonner les mangeoires. Et ils sont en train de sacrifier le peuple et sont en train d'hypothéquer les intérêts du pays parce qu'ils doivent rester toujours aux mangeoires. Avec une classe politique qui sans idéal, qui va en politique pour se servir et non servir le peuple et la nation. Donc nous sommes loin de sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons.
Merci, merci beaucoup Félicien. Vous estimez que c'est une question purement politique et là ça va être très très difficile de s'en sortir si la considération politique doit primer sur la considération juridique. Joseph, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, on vous écoute.
Oui, je pense que j'ai intervenu, j'ai écrit dans la page Facebook de l'émission. J'ai souligné le fait que le pouvoir en place a quand même raison de pouvoir agir ainsi et la CENI nous soutenons ce calendrier puisque la plupart des gouverneurs n'ont pas bien géré. Bien sûr qu'avant qu'ils soient devenus gouverneurs, ils ont été comme chefs spéciaux. Non, la gestion a été vraiment catastrophique. Pourquoi nous sommes en train de dire que ce calendrier est vraiment soutenu par le peuple congolais. En dehors de cela, j'ai suivi un intervenant qui parle d'un démembrement de provinces qui a été précipité. Moi, je dis non, nous devons respecter la Constitution puisque le démembrement, parce qu'il y en a aussi qui parlent que ces provinces ont connu des problèmes de fonctionnement qui manquent de moyens. Mais non, les moyens sont là, mais sont les gouverneurs, une question qui ont détourné les moyens des provinces à leur fin propre. C'est pourquoi nous disons que ces arrêts, en ce qui concerne les gouverneurs qui ont été appelés à Kinshasa et retenus jusqu'au jour d'aujourd'hui, et d'autres ont été réhabilités par les arrêts de la Cour constitutionnelle, nous disons à ce point-là, au moins, que la CENI ne doit pas organiser les élections en ce qui concerne ces gouverneurs-là, puisque les arrêts de la Cour constitutionnelle s'opposent à tous. Alors, pour citer, je voudrais ainsi dire, en ce qui concerne l'auditeur du Kassai, dont j'ignore encore le nom, en ce qui concerne les Kassai, bien qu'il rentre dans cette projette-là de gouverneurs réhabilités par la Cour constitutionnelle, non, nous ne savons pas, nous ne gérons pas le pays en profondeur. Parfois, il y a d'autres décisions, d'autres informations qui sont mises à la disposition du ministère de l'Intérieur, du ministre national de l'Intérieur, qui lui ont permis de pouvoir agir de cette manière-là.
Alors, Joseph, c'est que les gens, c'est que notre ami Timothée de Kananga a souhaité, bon, c'est de dire qu'il n'y a pas un acte juridique aujourd'hui qui déclare qu'il y a vacance à la tête de la province du Kasaï central parce que le gouverneur n'a pas été déchu par l'Assemblée provinciale. Il a été rappelé à Kinshasa, il n'a pas démissionné, il n'a pas été révoqué. Il fallait qu'il y ait au moins un acte qui détermine que ce gouverneur n'est plus en fonction avant qu'on procède à l'élection de notre gouverneur.
Oui, merci beaucoup, mais c'est comme ça que je dis que parfois il n'est pas au courant. Nous avons, moi aussi j'étais en train de me demander comment ils vont organiser les élections là où la Cour a réhabilité le gouverneur. Mais je me dis aujourd'hui qu'il y a des démissions qui ont été déposées. Est-ce que lui-même le gouverneur il s'est prononcé quant à ça? Non, parfois il a déposé et maintenant la population ne connaît pas. Il a démissionné bien avant que le ministre de l'Intérieur puisse saisir la CENI.
Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Joseph. Mais vous avez dit quand même que le fait d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle, cela n'occulte pas le vrai problème qui s'est posé dans les provinces avec la mégestion. On termine avec vous, Valérie. Vous êtes à Kinshasa. En 30 secondes pour permettre à notre invité de conclure cet échange. Bonjour et bienvenue dans ces débats.
Bonjour, bonjour à l'invité. Je regrette que l'État ne soit imparti. Monsieur Pierrot, je dois vous dire qu'à travers tout ce que nous venons de voir, voici ma lecture. 1. La majorité vient de bouffer sa propre Cour constitutionnelle. Parce que si hier, c'était l'opposition qui disait que la Cour constitutionnelle ne travaille pas correctement, mais aujourd'hui, même les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle viennent d'être boycottés par la majorité présidentielle. Deuxièmement, la majorité nous prouve que c'est elle qui décide de tout. Vous le constaterez à travers, par exemple, l'émission Dialogue entre Congolais, lorsque l'un des communicateurs de la majorité, je cite M. Benoît Youlama, il a dit que la démarche est éminemment politique, premièrement. Deuxièmement, il a ajouté pour dire que certains gouverneurs sont en train de démissionner. C'est-à-dire que la majorité reconnaît, tout en reconnaissant qu'il y a des postes pour lesquels les gouverneurs n'ont pas démissionné, mais la Cour constitutionnelle a quand même déclaré qu'elle va organiser les élections. Trois, cela voudrait dire que même la Cour, ceci voudrait dire que même la CENI vient de nous prouver qu'elle n'est pas indépendante, elle est manipulée par la majorité présidentielle.
Merci beaucoup Valérie, parce que là il faut qu'on donne aussi les temps de conclusion en un mot. Maître Donatien Onokoko, vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir juste en un mot autour de toutes ces inquiétudes?
Merci beaucoup Monsieur Pierrot. En un mot, je peux dire que la meilleure sécurité au monde, c'est le respect des textes. Lorsque nous ne respectons pas le texte, lorsque nous marchons sur le texte au gré des vagues, mais rassurez-vous que nous sommes en train de faire naître l'insécurité et nous allons chercher l'insécurité dans l'opposition ou ailleurs. Or, c'est nous-mêmes qui sommes les géniteurs de l'insécurité. Donc le gouvernement, à travers le ministère, le vice-premier ministre et le ministère de l'Intérieur, doivent faire un effort pour se conformer au texte. Donc je ne peux pas lire les violations des textes que la majorité en place ou le pouvoir en place est en train de commettre, alors que le pays ne va pas bien. Le pays a déjà déraillé, que le pouvoir fasse un effort pour amener le pays dans le rail. Sinon, nous ne savons pas comment le pays va survivre, hein, parce que avec de telles prises de position, ça ne rassure pas un lendemain sûr. Hein.
Merci donc beaucoup, Maître Donatien Onokoko, juriste. Hein. Merci à tous les auditeurs, vous avez été nombreux. On s'excuse aussi pour d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'intervenir en direct, mais le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde de ce magazine réalisé par Tati Mapoukou qui a aussi assuré la gestion du standard. Pierrot Elamé, je vous l'ai présenté sous la supervision de Martin Seboujangwe. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Mais vous allez retrouver cette émission sur www.radiocapi.net. Merci, bonne journée, compagnie de Radio Capi. Au revoir.